Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de finir la semaine avec vous et Culture Média. Au menu, tous les médias, toutes les formes de culture. On va parler d'une plateforme numérique et d'un festival à l'ancienne. On va vous conseiller un polar et des super-héros au temps du lycée. Il y aura le journal des médias de Cyril Lacarrière, le journal de la culture d'Hélène Manarino et son portrait inattendu. Notre info média, c'est une bonne nouvelle chiffrée. Non, la presse n'est pas morte, elle se porte même beaucoup mieux qu'on ne le dit. 97% des Français, autant dire quasiment tous, lisent chaque mois au moins une marque de presse, sur papier ou en numérique, et 98% jugent leur lecture enrichissante, utile ou agréable. C'est ce que révèle une étude qui vient de sortir. Puis nos invités, Natou, c'est la plus célèbre youtubeuse française, 5,1 millions d'abonnés à sa chaîne YouTube. C'est davantage que les villes de Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice et Nantes réunies. C'est ça, 5 millions de followers. Avec son compère Ludovic, 1 million d'abonnés quand même, ils incarnent le nouveau programme français du géant Amazon Prime. Ça s'appelle True Story et c'est drôle, surtout avec un format totalement nouveau. Ils seront avec nous dans ce studio. Enfin, Michel Boujna pour le festival de Ramatuelle qu'il dirige désormais et qu'il a réussi à maintenir cet été en vrai, en dur, alors que lui-même a été touché par le virus. Il y aura en prime, son portrait inattendu. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Deux blancs vêtus également, Cyril Lacarrière. Bonjour Cyril.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour
c'est
à tous.
C'est votre journal des médias. Qu'est-ce que vous avez au sommaire ce matin?
Ce matin, je vous parle de la grève qui redémarre chez BFM et RMC, de la folle aventure de Louis de Funès, de HBO Max, la plateforme pas de polémique. Et je vous parle de Didier Raoult qui va être une sorte de fil rouge à ce journal.
Mais on commence évidemment par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision?
Taxi 2 en tête des audiences. J'allais dire presque sans surprise, il y avait plus de 4 100 000 téléspectateurs hier soir devant TF1. Les fantômes du Havre qui n'ont rien à voir avec Édouard Philippe sont en deuxième position. Il y avait 3 millions de téléspectateurs devant France 3.
C'était une fiction.
Une fiction, absolument. C'est une série et un téléfilm. Et les 100 ans des comédies musicales sont en troisième position. L'émission a été suivie par près d'1 900 000 personnes.
C'est pas mal.
Et vous allez dire quelque chose, Cyril?
Oui.
Vous allez ajouter quelque chose?
Ah pardon, oui, non, je pensais qu'il y allait avoir la fin du tapis d'audience. Je vais, comme hier, vous vouliez nous parler de la grève sur BFM. Est-ce que ça a eu un impact sur les audiences de la chaîne?
Eh bien pas du tout. Mercredi, la chaîne a réalisé 3,2% de part d'audience contre 1,9% à CNews, 1,6% à LCI et 0,8% à France Info. Et cette réussite, BFM la doit à un homme, Didier Raoult. Le professeur marseillais était auditionné mercredi à l'Assemblée Nationale. Une audition que BFM a retransmise dans son intégralité, comme LCI d'ailleurs, et qui a attiré en moyenne 350 000 téléspectateurs devant la chaîne entre 17h et 20h. C'est 50% de plus que la moyenne de la case.
Et puisqu'on parle de BFM TV, hier Cyril, j'ai vu quelque chose que j'avais jamais vu à la télé. Un plateau constitué de 3 candidats à une élection majeure, 2 journalistes, 5 femmes. Voilà, et je voulais le signaler parce que je crois que c'est une première. Et puis quant à Didier Raoult, on en reparle en toute fin de journal, car vous m'avez parlé d'un projet étonnant dont vous serez le premier à nous dévoiler la teneur.
Culture Média.
On commence ce journal des médias à proprement parler avec le climat qui ne s'apaise pas du côté de BFM et du groupe Next Radio TV.
Effectivement, hier, après 8 heures de négociations, les salariés ont finalement décidé de reprendre leur mouvement de grève, et cette fois jusqu'à lundi 9h. Selon les syndicats, deux choses bloquent. D'une part, la direction de Next Radio TV refuse de garantir aux équipes un délai fixe sans plan social, c'est-à-dire une fois le plan de départ volontaire terminé. Et deuxième point, la direction refuse également de baisser le nombre de suppressions de postes qui concernent les intermittents et les pigistes qui travaillent au sein du groupe. Résultat, les deux parties sont dans l'impasse. Hier, sur les 465 votants, 326 se sont prononcés en faveur de la poursuite du mouvement jusqu'à lundi matin. Et au moment où on se parle, on ne sait pas si les négociations vont reprendre ce matin.
Cyril, tout autre chose, un documentaire à nous signaler consacré à l'un des plus grands comédiens comiques du cinéma français.
Ce soir, France 3 vous invite à suivre la folle aventure de Louis de Funès, un film de Lucie Carriez qui veut nous faire découvrir l'homme derrière l'acteur. C'est un documentaire construit uniquement à base d'images d'archives, dont un bon nombre d'images inédites fournies par la famille de Louis de Funès. Nous avons joint son fils, Olivier, pour lui demander s'il prenait, lui, des précautions avant de s'engager sur un film qui concerne son père.
Je suis très méfiant, c'est-à-dire il y en a eu pas mal, mais les gens qui se permettent de faire des documentaires en disant « moi je le connais, vous allez voir ce que j'ai montré, d'abord il y a beaucoup de choses fausses », et puis ils insistent sur des points qui n'intéressent pas beaucoup les spectateurs, vous voyez. Les spectateurs, ils aiment Louis de Funès, voilà, ils ne s'intéressent pas trop à sa vie privée, ou à son caractère, soi-disant qu'il a très mauvais caractère sur les tournages, tout ça. Alors on tourne autour du pot, donc je suis assez méfiant pour avant d'y participer, oui, parce qu'il y a des choses plus intéressantes. Cela dit, dans celui-là, on raconte qu'il a un peu souffert sur tel ou tel tournage, mais c'est fait gentiment, c'est fait en expliquant un petit peu les choses, le pourquoi, quoi. Mais je suis très réticent. Vous savez, j'ai toujours dit que d'abord, moi, je ne suis strictement rien, donc je n'apporte pas grand-chose, et qu'en plus, lui n'a pas besoin de ça, c'est son public qui l'adore.
Évidemment, cette fois l'aventure n'est pas le premier documentaire à s'intéresser à la vie de Louis de Funès. Alors qu'est-ce qu'il y a encore des choses que les Français peuvent apprendre à son sujet ? La réponse de son fils.
Louis n'a pas besoin de ça, il a son public, il a un public de plus en plus nombreux, en plus dans le monde, c'est incroyable. Et puis elle m'a convaincu, Lucie, parce qu'elle m'a dit, oui, mais enfin, peut-être que son succès est un petit peu, enfin, sa façon de jouer peut-être indissociable de sa façon d'être dans la vie. Et j'ai dit oui, c'est assez intéressant. Alors malgré tout, on trouvera jamais le pourquoi de sa longévité. Mais je trouve que ce documentaire est bien fait parce que il raconte un peu Louis d'une façon très sobre, avec un texte dit par Isabelle Nanty qui le fait avec une sobriété très touchante. Et donc ça peut apporter aux gens qui aiment beaucoup Louis. Oui.
Si vous aimez De Funès, l'acteur, France 3 vous offre une chance de mieux connaître l'homme de Funès ce soir à 21h, un film qui arrive quelques semaines avant l'ouverture de la rétrospective De Funès à la Cinémathèque de Paris qui débutera le 15 juillet.
La plateforme HBO Max fait décidément parler d'elle.
Les Français n'y ont pas encore accès, mais vous devez certainement en avoir déjà entendu parler, notamment à cause du vrai faux retrait du film Autant en emporte le vent. Il y a quelques semaines, la plateforme américaine a décidé de retirer provisoirement le film aux 10 Oscars à cause de sa vision très idéalisée de la période de l'esclavage, mais comme prévu, le film est revenu ces jours-ci sur le service de vidéo à la demande, accompagné d'un avertissement que je vous lis. Le traitement de ce film à travers le prisme de la nostalgie nie les horreurs de l'esclavage ainsi que son héritage des inégalités raciales. Regarder ce film peut être inconfortable et même douloureux, mais il reste important que les classiques d'Hollywood soient disponibles dans leur version originale.
Et donc Cyril, HBO Max fait de nouveau preuve de prudence, voire, selon certains, d'un excès de prudence.
Les amateurs de South Park le savent, le dessin animé n'épargne rien ni personne, et on aime même cette série pour son aspect outrancier et affreusement vulgaire.
Combien font 5 fois 2 ? Oui, Clyde ?
12.
Loupé. Essayons d'obtenir la réponse par quelqu'un qui soit moins attardé que toi. Qui d'autre ?
Moi, je crois que je peux répondre, monsieur Garrison.
Ta
gueule, gros con !
Hé, me traite pas de gros en...
Eric, j'ai cru t'entendre dire un gros mot.
Fais-je ? Mais non, enfin, c'est en... On dit pas en... à l'école.
Kyle.
Mais en...
Eric.
Putain, t'as encore dit en...
Stanley. Kenny, ça vous dirait d'aller tous voir le conseiller de l'école ?
Et vous, ça vous dirait d'aller vous faire...
Voilà pour une petite illustration qu'on aime bien rediffuser dans ce journal. Eh bien, HBO Max, qui s'est offert les droits des 23 saisons de South Park pour 500 millions de dollars, a décidé de retirer 5 épisodes du catalogue. Ces 5 épisodes contiennent tous des références à Mahomet, le prophète musulman, dont toute représentation est considérée comme un blasphème. C'est sur cette accusation de blasphème que des intégristes s'en étaient pris à la rédaction de Charlie Hebdo en 2011, avant l'attaque meurtrière des frères Kouachi en janvier 2015. Aux États-Unis, pas question de prendre le moindre risque. Les 5 épisodes ont donc été tout simplement supprimés de la plateforme. Ce n'est pas une première, ces épisodes avaient déjà été mis de côté par un autre diffuseur américain. Les créateurs de South Park ont plusieurs fois été menacés de mort.
Et on termine, comme annoncé, avec le professeur Raoult et un projet dont Culture Média est la première émission à vous entretenir.
On le sait, Didier Raoult est devenu une des personnalités françaises les plus en vue du moment. Eh bien, il semble que le professeur ait l'envie de profiter de cette incroyable notoriété. Selon nos informations, Didier Raoult se verrait bien monter sur scène. Oui, ce n'est pas une blague. Le médecin a évoqué cette idée avec le producteur Stéphane Simon. Stéphane Simon, c'est l'ancien producteur de Thierry Ardisson et qui est aujourd'hui dans le business de Web TV, comme celle de Michel Onfray, Onfray TV. Il est également derrière le projet du magazine Front Populaire, auquel va justement participer Didier Raoult. J'ai contacté Stéphane Simon pour lui demander si ce projet de stand-up de Didier Raoult était bien réel. Le producteur confirme que c'est bien un sujet qu'il a évoqué avec Didier Raoult, mais que pour l'heure, ce n'est qu'une idée dans l'air entre lui et le directeur de l'IHU Méditerranée. Évidemment, et on vous tiendra au courant si ce Didier Comedy Club devait finalement bien voir le jour.
Disons, ça va faire du monde, il y a de l'attente. Merci beaucoup Cyril Lacarrière. À lundi, bon week-end. À lundi pour un nouveau journal des médias.
À suivre l'infomédia du jour, on va parler de One Next, la nouvelle mesure d'audience des marques de presse. Et c'est dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et c'est l'infinie de l'info média du jour.
Non, la presse n'est pas morte, elle se porterait même très bien. 97% des Français, autant dire quasiment tous, lisent chaque mois au moins une marque de presse. Et c'est pas tout. 90% des Français ont confiance en ce qu'ils lisent et 98% jugent leur lecture enrichissante, utile ou agréable. C'est ce que révèle une étude menée par la CPM, c'est l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias. Mais cette étude ne s'arrête pas là, elle s'attache également au profil sociodémographique des lecteurs et à leur support de lecture favori. Est-ce que c'est le papier, est-ce que c'est l'écran? Une mesure qui va également permettre aux publicitaires de mieux cibler les sites et les journaux papier dans lesquels il est pertinent de publier des pubs, on va le dire. Pour en parler, nous sommes avec Stéphane Baudier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de l'ACPM, l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias. D'abord d'un mot, c'est quoi l'ACPM? Quelle est votre mission?
L'ACPM, c'est une association à but non lucratif qui regroupe tous les éditeurs de presse français, mais aussi les annonceurs et les agences, pour développer les audiences et contrôler les chiffres.
Alors donc, vous avez créé One Next. Ma question est simple, qu'est-ce que c'est? Comment vous l'avez conçu? Je précise que vous avez fait ça en collaboration avec Kantar et Médiamétrie de référence.
Alors One Next, une étude d'audience. Le principe d'une étude d'audience, c'est de connaître le volume de lecteurs et le profil des lecteurs. En fait, aujourd'hui, je veux dire, les consommations médias sont tellement singulières, particulières, exclusives. On a tous une consommation média totalement différente de son voisin, grâce au portable.
Exactement.
Donc, il était nécessaire d'utiliser plusieurs sources, plusieurs méthodologies pour arriver à retracer de la manière la plus précise les consommations médias des Français.
Alors justement, ça a été quoi la méthodo, comme on dit dans les bureaux?
Alors la méthodo, c'est une méthodo, ce qu'on appelle single source, c'est-à-dire qu'on essaye avec le plus de précision possible de savoir toutes les consommations médias d'un Français. Donc pour ça, on associe à la fois des interviews, donc on va interviewer 28 000 Français représentatifs du panel.
28 000, c'est beaucoup,
ah
c'est bien.
C'est beaucoup, beaucoup.
Ouais.
Du panel, donc là c'est sur une très longue durée, on suit les consommations médias de la personne, et puis on modélise, on fusionne, avec une très très grande innovation, c'est une petite appli, qui s'appelle Ma Presse à Moi. Mmh. On a demandé à 5 000 des interviewés de télécharger une appli pendant 15 jours, et ça on continue sur toute l'année, et puis à chaque fois qu'ils lisent, donc leur quotidien, leur magazine, ils le posent, ils posent l'appli, ils posent leur téléphone, ça reconnaît le titre, ça reconnaît l'heure, ça reconnaît mais l'heure à la plus précise, et puis ça leur pose des petites questions pendant 20 secondes. Et comme ça, on a un peu plus de 60 000 jours ouvrés d'observation.
Ouais.
Un truc incroyable en termes de volume.
Alors, la première étude de l'audience de la presse datait de 2011. Qu'est-ce qui a changé en 9 ans?
Bah, tout. Tout. C'est-à-dire qu'il y a 9 ans, on avait des consommations médias très traditionnelles. On regardait encore la télé, le film le dimanche soir. Et on parlait de TNT.
Ouais.
Aujourd'hui, je veux dire, qui peut imaginer cet été louer une maison où il n'y a pas le Wi-Fi?
Moi, je veux dire, ce qui m'a vraiment frappé et qui me fait un grand, grand plaisir, c'est ce chiffre, 97% des Français, donc quasiment tous, qui lisent chaque mois au moins une marque de presse. Je me souviens qu'on disait, quand moi j'ai commencé dans ce métier, qu'il y avait un tiers des Français qui n'achetaient jamais un seul journal ni un magazine. Donc là, c'est l'inverse.
Ah bah, c'est totalement
c'est
l'inverse.
Le numérique qui a fait franchir un bond.
Mais énorme. Plus de pratiquement 60% des Français, parmi les 97, lisent la presse en digital. Grâce à notre portable, grâce à notre mobile, grâce à notre tablette, on lit tous la presse, mais on la lit de moins en moins, c'est la vérité sur le papier, mais de plus en plus à travers les sites, les applis, les podcasts, les vidéos, en fait, tout ce que la presse développe pour faire passer ses contenus.
Alors, voilà pour la méthode. Maintenant, le plus important, c'est le fond de cette étude. Quels sont, selon vous, les principaux enseignements de l'étude? Ce qu'on apprend beaucoup de choses.
Le principal, c'est la confiance et l'attention. Tout le monde, enfin, il y a plein d'études qui disent que les Français ont plus confiance dans les médias que les journalistes, mais c'est pas vrai.
Comment ça, c'est pas vrai? Mais ça
non,
veut dire
c'est
que c'est
pas
deux
vrai.
Études différentes.
Non, c'est-à-dire que la nôtre, on l'a fait sur un énorme échantillon.
C'est le baromètre de confiance des médias de La Croix, si je me souviens bien, où chaque année ils demandent les choses se sont-elles passées telles qu'elles sont écrites ou montrées à la télé ou racontées à la radio. Je suis très content de le citer parce que c'est la radio qui arrive en tête. C'est la radio qui inspire le plus confiance. Mais en tout cas, ce ne sont absolument pas ces chiffres que vous avez de 90% de
non,
confiance.
Parce qu'en fait, quand on vous achetez un journal, quand vous lisez Le Monde, Télé Loisirs sur votre appli, personne ne vous force. C'est un acte volontaire et vous ne faites que ça. Et on a confiance dans ce qu'on lit et on a envie de le partager. D'ailleurs, je veux dire, on l'a vu pendant le confinement, on n'arrêtait pas de poster des articles du Monde, de Ouest-France, de La Voix du Nord, en fait, parce que ça donne confiance Et je veux dire, cette confiance, elle est très très forte et c'est vraiment l'un des médias qui inspire le plus confiance, mais ça grâce au travail des journalistes.
Autre chiffre qui m'a réjoui, on pensait que les 15-24 ans ne lisaient plus. 85% des 15-24 ans lisent la presse en ligne. Mais est-ce qu'ils lisent la presse ou est-ce qu'ils tapent des mots-clés et il se trouve que ça les redirige sur de la presse? Tout à l'heure, on va recevoir des youtubeurs Ludovic et Natou. Peut-être que la presse n'intéresse pas les fans de YouTube, mais ils tapent le mot Ludovic, le mot Natou et bim, ils tombent sur un papier de Télé-Loisirs ou de Télérama ou de Dieu sait quoi, ou de Match.
Ils lisent la presse, mais pour eux, en fait, c'est un problème de sémantique. Quand on dit presse, malheureusement, encore, on pense à papier. Mmh. Je donne des cours, je demande à mes élèves, vous lisez la presse? Ils disent non. Vous lisez 20 minutes ou vous lisez Le Monde? Ils disent oui. En fait, pour
eux... Non, ils sont bas du front, vos élèves, non?
Non, mais parce
comment
que...
Comment ça, ne pas comprendre que 20 minutes ou Le Monde est un organe de presse?
Non, mais pour eux, c'est une information fiable, une information moderne, mais c'est pas forcément de la presse, au même titre qu'ils lisent Europe 1. Ben oui, parce que quand ils vont sur le site d'Europe 1, eh ben ils lisent.
Bien sûr.
Et c'est de l'information fiable.
Ouais. Donc... Et il y aura même le compte-rendu de cette conversation sur le site d'Europe 1 tout à l'heure.
Oui, tout à fait.
Grâce à l'équipe du web qu'on salue. Quels ont été les titres les plus lus en 2019? Là également, je vous laisse annoncer le top 5. Et là encore, il y a des surprises.
Ben, les titres les plus lus, c'est d'abord la presse d'information. On l'a vu à travers le confinement, quoi. Il y a une confiance absolue des Français et puis elle a rendu service, elle s'est rendue encore plus utile que d'habitude.
Ouais.
Donc les premiers titres, c'est Le Figaro,
ouais.
Donc un titre payant. Le second, c'est 20 minutes, hein, gratuit. Le troisième, et là c'est une grande surprise, mais c'est aussi l'amour des Français pour la cuisine, c'est Marmiton. Sauf que Marmiton aujourd'hui, c'est une énorme audience, c'est un titre de presse, mais qui touche et qui est beaucoup, beaucoup plus lu en digital. En papier.
Mais évidemment. Et puis, il y a aussi, on va citer également Télé-Loisirs, 22 millions de lecteurs. Le Parisien, 22,5 millions. Ça rend beaucoup. 32% des lectures donnent envie de passer à l'action. Et ça, c'est très important. Ça veut dire quoi, passer à l'action?
Passer à l'action, c'est aller sur un site, se renseigner, aller en magasin pour découvrir, acheter un produit.
Ouais.
En fait, la presse a une double... Je veux dire, sa relation avec les marques, elle est double. C'est déjà à travers les articles. C'est le seul média qui parle des nouveautés produits, des marques. Et puis la pub. Et tout ça, ça fait qu'à 32%, les lecteurs, ils ont envie d'en savoir plus. Et puis au final, ils achètent.
Un tiers des lecteurs, ce qui est quand même considérable. Et je suis très content pour tous les annonceurs qui nous écoutent. Et ils ont bien raison. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Stéphane Baudier. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la CPM, l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias. Et justement, on marque une pause. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Oui, nos prochains invités sont Natou, Ludovic et Thomas Dubois. Ils viennent nous parler de la série originale True Story qui sort aujourd'hui sur Amazon Prime Video. Et ça a juste l'air dingue. On en parle avec eux dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on accueille Natou, Ludovic et Thomas Dubois.
Bonjour Natou.
Bonjour.
Honneur aux dames, pour vous situer, vous êtes la plus célèbre youtubeuse française, 5,1 millions d'abonnés à votre chaîne. J'ai fait le calcul, c'est plus que les villes de Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice et Nantes réunies. À côté de vous, Ludovic, bonjour.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Combien d'abonnés?
Oh, moins que Natou.
Ouais. C'est le youtubeur le moins connu de France.
Non, dites pas ça. 1,25 oui. million d'abonnés, c'est prodigieux.
Oui, oui, c'est pas
plus
mal.
Que la ville de Lyon, c'est plus que la ville de Marseille.
Vrai, vraiment, souvent, rendez-vous compte de ça.
Vous incarnez tous les deux un nouveau programme français du géant Amazon Prime. Ça démarre ce soir. Bonjour Thomas Dubois.
Bonjour. Moi, j'ai pas d'abonnés, mais.
Vous n'avez pas le droit de le dire. Je sais, de toute façon, Amazon ne dit pas le nombre d'abonnés.
Bah, c'est l'équivalent de mon salon.
J'ai cru que vous alliez dire c'est l'équivalent de mon salaire. Vous êtes en quelque sorte le directeur des programmes d'Amazon. Amazon Prime, c'est quoi votre titre exact?
C'est directeur des programmes originaux.
Alors, ce programme est justement original à tous les sens du terme. Il s'appelle True Story. Je l'ai vu, c'est drôle. Et surtout, c'est un format totalement nouveau, avec un casting surprenant. Le Parisien, aujourd'hui en France, de ce matin, écrit, c'est Sandrine Bajos qui écrit ça, un show humoristique en 6 épisodes de moins de 30 minutes qui fait un bien fou. Natou et Ludovic, racontez l'idée de départ, donc la raison pour laquelle vous avez dit oui. Pourquoi vous avez dit oui, Natou? Racontez, qu'est-ce qu'on voit dans
ce
story?
Moi, j'ai dit oui, tout simplement parce que c'est un programme, on l'a déjà dit, original, ouais. Mais c'est vraiment le cas.
Mais racontez le fond, qu'est-ce qu'on voit?
Très bien, nous avons des invités de qualité, ouais, qui viennent raconter une histoire inédite, donc... Ils nous la racontent. Nous, on est là en tant qu'intervieweurs et on va chercher des questions pour avoir des précisions, des anecdotes, enfin des détails.
Sur leur historique, histoire, exactement.
Il y a plein de... C'est plus complexe que ça, raconter tout ce qu'elle n'a pas dit.
Alors, voyez True Story.
Moitié.
Voilà. Voyez True Story comme une salade composée.
Ah, c'est pas, ouais, vrai. À chaque fois, ils comparent ce programme à de la nourriture.
Ah non, c'est pas possible.
Non, mais il y a des côtés interview, voilà, qui sont menés par des duos, si tu veux, de youtubeurs.
Ouais.
Et il y a également le côté fiction, c'est-à-dire que les invités, que ce soit Zaya, Jonathan Cohen, Fianso et j'en passe, nous racontent une histoire qui est vraie. et elle est mise aussi en parallèle en fiction. Et dans la fiction, on joue aussi.
Alors, je vais citer les autres participants. Il y a deux autres duos de youtubeurs, Norman et Cyprien, McFly et Carlito. Carlito, qui au passage sera l'invité de Culture Média jeudi. Thomas Dubois, pourquoi vous avez choisi pour ce programme des youtubeurs? Parce que c'est le seul moyen de toucher les jeunes, j'imagine. Et surtout, comment les avoir choisis? Parce qu'il y en a pléthore de youtubeurs.
Bah, déjà, on les a choisis parce qu'ils sont talentueux.
Ouais.
On n'a pas choisi des youtubeurs, on a choisi des artistes avec des talents multiples. Ils savent aussi bien s'illustrer dans de la fiction que dans de l'interview. Mmh. Et ce programme, c'est un mélange entre l'interview et la fiction. Donc, c'est pour ça qu'on a été les chercher. Et après, pourquoi ces six-là? Bah, parce qu'on trouve qu'ils sont tous très complémentaires et qu'ils apportent quelque chose dans chacun des épisodes qui est très différent.
Alors, je précise, c'est humoristique, mais tout est vrai dans les histoires. On va entendre l'ambiance. C'est votre présentation, Natou et Ludovic.
Waouh, waouh, waouh. Coucou les pépitos. On va maintenant accueillir un comédien hors pair. Il a joué dans plein de films, il a joué dans plein de séries.
Il a joué sur des cours de tennis aussi.
Sur des cours de tennis?
Bah oui, Djoko. Djokovic?
Non, nous c'est Djoko. Djoko Cohen. Jonathan Cohen.
Ah, mais oui, mais je me disais bien que c'était un peu bizarre.
Oui, attends, Natou.
Oui, je suis complètement con. En plus, moi j'adore Jonathan Cohen.
Et ben voilà.
Surtout son petit personnage là, Stéphane le menteur. J'adore, je suis fan.
Serge Le Mito.
Oui.
Eh bien, on accueille tout de suite Jonathan Cohen, c'est parti.
Donc, votre invité, c'est vraiment Jonathan Cohen, donc le Serge Le Mito. Sauf que là, il raconte qu'il lui est vraiment arrivé. C'est quoi l'histoire, en quelques mots, qui veut raconter l'histoire de Jonathan Cohen?
On va se compléter, comme d'habitude.
Vas-y, on se complète, vas-y.
Bah, c'est une histoire incroyable avec Mel Gibson. Déjà, juste cette info, c'est ouais, un peu improbable.
Et Jonathan Cohen, en face, qui est en slip.
Oui.
Ça se passe aux États-Unis. Et ils finissent aux urgences. Voilà.
Chez une des meilleures amies de Jonathan Cohen.
Ouais,
et qui se trouve est une très bonne amie de Mel Gibson.
Okay.
Il se retrouve chez la fille. Et
Mel Gibson masse son ami.
Ouais, non, d'abord il sonne.
Il faut pas qu'on raconte pas tout. Hein.
Oui, oui.
Ah, on peut quand même dire ça, que Mel Gibson arrive avec des huiles de massage qu'il a produit lui-même. Donc déjà, on imagine le dingue. Mais ce qui est très intéressant dans ce qu'on entend, c'est que vous avez tourné, je m'adresse à vous, vous avez tourné, vous, Amazon, avec les équipes de Warner, vous avez mis en fiction ce récit. Et là, on va entendre la fiction. C'est quand Jonathan Cohen, donc le faux Jonathan Cohen, débriefe avec sa copine qui s'est fait masser devant lui par Mel Gibson.
Mel, il y avait Brevard dans ton salon. Tu t'es fait séma le huc par William Wallace.
Ouais, ça va, c'est pas si fou non plus. Hein.
Pas si fou, non mais attends, tu te rends pas compte. C'est ouf, et moi je suis là comme un clodo en calbute dans ton salon alors que je viens de rencontrer mon idole. Hein. Non mais attends, mais putain, j'ai une seule occasion de le voir dans toute ma life et je ruine le truc.
Non, je peux pas tout raconter, sauf qu'à un moment donné, il a dû déshabiller Mel Gibson. Mmh. Comment vous avez travaillé? Est-ce que vous étiez prévenus de l'histoire tous les deux, Ludovic et Natou?
Pas
où vous
tout.
Avez découvert?
Non, non, non. On a découvert les invités assez tard et les histoires, on n'était pas du tout au courant pour garder une certaine fraîcheur. Et on était incités pendant les interviews à bien rebondir pour étoffer la fiction qu'on tournait quelques semaines après.
Évidemment. Thomas Dubois, comment vous avez travaillé, vous, en amont? Parce que vous, les histoires, vous les connaissiez.
Exactement. Nous, on a commencé par ça, chercher des célébrités qui avaient des histoires drôles et un petit peu improbables à nous raconter.
Ouais.
Une fois qu'on les a identifiées, on a travaillé avec eux pour trouver la meilleure histoire, celle qui surprendrait au plus Ludovic et Natou. Et à la suite de ça, une fois qu'ils avaient fait toute la partie plateau, on a travaillé toute la partie fiction en se demandant quels étaient les moments un petit peu clés auxquels on voulait redonner vie en images.
Au générique, il n'y a pas moins de 4 auteurs. C'est pour les fictions ou c'est aussi pour les invités? Vous les avez aidés à faire leurs textes?
Ils ont été un petit peu encadrés, mais les auteurs sont majoritairement pour la fiction.
Voilà.
Ce qui était important pour nous sur la partie plateau, c'était de donner la main à tous nos youtubeurs pour qu'eux drivent la conversation et qu'ils puissent creuser parfois même. On a été surpris de découvrir des choses qu'on n'avait pas entendues en amont liées à ces histoires-là. Et c'est là où tout leur talent a fait effet.
Moi, j'ai même appris des mots ce matin. Je me suis levé à 4h30, je raconte ma vie pour voir ce que, comme j'ai Amazon Prime, pour voir un épisode qui n'était pas dans le dossier de presse avec Zaya. Elle a un peu de mal avec son histoire, Zaya. Elle m'a bien fait marrer. Elle parle d'une pantille devant McFly et Carlito, et tout d'un coup, quand même, ils sont un peu gênés, ils disent « je crois qu'on dit une mentille ». Elle fait « ah oui, ah bon ». Voilà.
Non, mais elle était extrêmement surprenante et on a été super contents de la voir. Son histoire amène toute la diversité à la série. Donc...
Ah non, mais c'est magnifique, mais je peux rien dire parce que... enfin. Il faut écouter aussi l'histoire de Zaya.
Ça se passe à Venise.
Ouais, mais voilà. Racontez pas tout, racontez pas tout.
C'est un programme qui fait voyager, voilà. C'est tout, j'ai besoin de le dire.
Ouais. On marque une pause, à tout de suite.
Dès aujourd'hui sur Amazon Prime Video, vous pouvez découvrir la nouvelle série originale True Story où des personnalités françaises sont invitées à raconter d'invraisemblables histoires devant trois duos de youtubeurs. On continue à en parler avec nos invités dans un instant sur Europe 1.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
True Story, ce sont des histoires sensationnelles racontées par des personnalités. Tout se raconte sur le plateau de cette série originale diffusée à partir d'aujourd'hui sur Amazon Prime Video. Une anecdote qui a marqué leur vie devant un duo de youtubeurs qui découvrent l'histoire en même temps que nous. Pour en parler avec nous ce matin, l'un de ces duos, Natou et Ludovic, et Thomas Dubois, qui est directeur des programmes originaux pour la France chez Amazon Prime Video.
Alors c'est vraiment un format totalement neuf, puisque c'est à la fois une fiction et une émission d'interview. Et alors, vous avez tout fait rejouer, toutes les séquences racontées par les célébrités Thomas Dubois. Dans le cas de Mel Gibson, normal, vous n'allez pas aller chez lui. Mais par exemple, pour José Garcia et Antoine Decaune, pourquoi ne pas avoir utilisé les images d'archives de Nulle part ailleurs, par exemple, auxquelles ils font référence et recréer un faux Nulle part ailleurs?
Ouais, parce qu'on sort du concept. Nous, ce qui était intéressant, c'était vraiment de le rejouer. Parfois, c'est même rejouer en grossissant un peu le trait, ouais, on va dire, de façon à ce que ce soit le plus drôle possible. Et on voulait s'affranchir de l'histoire originale et vraiment lui donner une seconde vie.
Un mot du décor absolument sublime. Dites-nous, vous avez tourné
dans un très bel endroit à Paris.
Mais dites où c'est.
C'est au siège du Parti communiste.
Voilà, je veux dire pourquoi je posais la question. C'est tellement beau, c'est l'immeuble de Niemeyer. Et je me suis dit, ils ne sont pas rancuniers chez Amazon. Parce que quand vous lisez l'Humanité, le journal communiste, les titres sur Amazon, quand Amazon entasse les travailleurs dans ses entrepôts, stopper Amazon pour transformer le monde, révélation, ce que nous coûte le scandale Amazon, ils vous ont accueilli comment ?
C'est un monument français. Nous, si on peut donner de la visibilité à des monuments français, c'est ce qui nous importe. Donc, c'est un joyau. On avait envie de lui donner une visibilité, c'est ce qu'on a fait.
Mais je veux dire par là, non mais eux, ils ont été cool avec vous ? Où ils ont fait des remarques en disant « Ah là là, voilà le grand Satan, les grands méchants. »
Il y avait un buffet.
Il y avait un buffet. C'est tout ce qu'il
y avait à boire et à manger, voilà.
Le gars, il est focus sur le...
Oui, oui, sur non, la... mais voilà.
Alors, il faut quand même... Il y a aussi un récit qui m'a fait hurler de rire. Le récit d'Olivier Nakache et de sa sœur Géraldine Nakache. Thomas Dubois, vous pouvez raconter ça?
C'est l'histoire d'un mariage, ouais, qu'ils ont dû organiser dans leurs jeunes années, je dirais. Et qui, du plus beau jour de la vie d'une personne, va devenir le pire. Mmh. Donc c'est une cascade de rebondissements et de choses improbables où le mariage dégénère, mais vraiment à tous les sens du terme.
Olivier Nakache, à l'époque, il est pas grand-chose. Il fait des animations, genre il fait des trucs de clown pour les enfants. On lui dit, une dame lui dit, est-ce que vous pouvez organiser le mariage de ma fille? Vous avez déjà fait le DJ? Il dit oui, mais il l'avait jamais fait. Et le soir prévu, la sono ne marche pas. La deuxième hôtesse est habillée comme un sapin de Noël. Ils improvisent un karaoké sans sono, mais les gens s'engueulent parce que deux cousins sont pas d'accord sur le décompte des points. Un jour de mariage, ça part en bagarre générale. Récit.
Déjà, pour vous le dire, tu nous as volé un point tout à l'heure.
Quoi ? Moi, je suis un voleur ?
Ouais. Putain, mais t'es vraiment con, Jean-Marie !
Et là, ça part en octogone.
Non, mais là, ce qui part, c'est juste c'est une chaise.
Oh, putain. Putain, je vais te le faire bouffer, ton Woolsey. Lâche-moi ! Lâche-moi !
Moi, en fait, j'ai eu hyper peur. Je rigolais plus du tout. Jusque-là, tu te disais, bon, bah, c'est pas grave, c'est une succession de galères. Là, j'ai eu hyper peur. J'ai eu peur pour lui que la mariée l'étrangle de ses mains.
Qu'on se prenne une chaise ?
Ouais, non, mais j'ai eu peur. C'était pas cool. Et là, tu vogues, là. T'as envie de dire, vas-y, gare-toi, on sort de là, en fait.
Alors j'avoue, j'étais mort de rire parce qu'il y avait un enjeu. C'est-à-dire que Decaune et Garcia sont des fantaisies. Ce qui leur arrive, ça fait presque partie de leur métier. Tandis que là, la mariée, il y a une charge émotionnelle importante, et la question que tout le monde se pose, à laquelle vous répondez pas parce que c'est le principe, mais qui est devenu la mariée et le mariage, est-ce qu'ils sont toujours ensemble les deux?
Ouais, c'est une très bonne question, je vous avoue que
ils sont invités dans True Story saison 2 en fait pour raconter leur anecdote de
alors,
divorce.
Chaque couple de youtubeurs présente deux numéros, deux histoires, et vous Ludovic et Natou, c'est l'histoire de Fianso en deux mots.
Très touchant.
Ah bah t'as dit les deux mots. J'allais dire touchant aussi. Très touchant.
Ouais.
L'épisode est très très cool.
Racontez ce qui lui arrive à Fianso, ce qu'il vous raconte.
En gros, c'est un fan qui vient devant chez lui, qui lui donne des textes. Natou continue.
Oui, enfin, il le retrouve. Il fait toute une espèce d'enquête pour retrouver l'adresse précise.
C'est plus dingue. Il y a un paquet. Il devant sa porte. Il habite encore dans le quartier Fianso. Et devant sa porte, il y a une pâtisserie orientale avec un numéro de téléphone.
Voilà. Oui, ça part de là.
Oui, c'est vrai.
Ça fait très Matrix.
Oui. Ouais.
Et en fait, oui, il lui dépose un sac entier de textes que Fianso va ouvrir quelques mois plus tard. Et en fait, il y a un des textes qui va l'inspirer. Ouais,
exactement. Fianso, c'est un rappeur. Mais le truc le plus dingue, c'est pour ça que ça vous a touché. C'est peut-être pour ça d'ailleurs. Il s'appelle Xavier. Et on découvre que ce fan du rappeur, il est gendarme. Et là, j'imagine que ça vous parle, Natou.
Oh, évidemment, puisque moi, j'ai été fonctionnaire de police il y a 10 ans de cela.
Ouais.
Donc forcément, je me suis sentie très proche de Xavier.
Mais non, mais c'est la première fois que vous rigolez, c'est la première chose qui vient évidemment à l'esprit. Quand vous avez...
J'y avais même pas pensé.
Vous m'arrêtez, vous ne vous moquez pas de moi. Non, c'est pas le passé. Il y a un truc parce que, qui m'a frappé, c'est qu'avant de venir, j'ai lu plein de papiers sur vous. Vous racontez que vous étiez 5 ans policière et vous auriez quel genre d'anecdote à raconter ?
Des anecdotes pas très fun, moi.
Ah non, c'est, si. Racontez quand vous êtes fait caillasser dans une fête.
Une oui, fête peut-être, déguisée quand d'accord. même. On avait été, été appelés pour un tapage nocturne, donc c'était une soirée déguisée. Ouais. Et qui a mal tourné, parce que quand on est arrivé, les gens étaient un petit peu ivres et ont commencé à se rapprocher de nous, à nous pousser. Et donc forcément, bah, nous, on a un petit peu rétorqué. Et c'est parti en caillassage, mais avec bah, vraiment un pilote de ligne, un clown, qui nous lançait des pierres. Quoi. Et ce qui était drôle, c'est qu'il nous lançait des cailloux en direction de voitures derrière lesquelles on s'était abrité, mais c'était les voitures des invités. Donc c'était, tout était improbable, c'était fou.
Oui, ça fait une histoire. On a plein de questions à vous poser encore. Vous restez avec nous. Culture Média continue.
True Story, ça démarre ce soir sur Amazon Prime, une série originale dont continue à parler avec nos invités dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
True Story, ce sont des célébrités qui racontent des histoires dingues mais vraies devant des duos de youtubeurs. C'est à voir dès aujourd'hui, hein, jeudi ce soir, mais non, vous pouvez les regarder dès maintenant sur Amazon Prime Video. Et pour en parler avec nous en studio, Natou et Ludovic, l'un de ces duos de youtubeurs, et Thomas Dubois, directeur des programmes originaux chez Amazon Prime Video.
Alors, je l'ai dit, Natou, vous êtes une youtubeuse, 5,1 millions de followers, la française la plus suivie. Dans une vidéo qui date de janvier, vous attaquez un tabou chez les youtubeurs, c'est pas l'argent, c'est la vieillesse. On imagine toujours que les youtubeurs sont jeunes de chez jeunes et que t'as pas le droit d'être vieux. Et là, vous racontez que vous avez eu vos premiers cheveux blancs, sacrilège, vos premières rides. Et là, je me suis dit, mais le signe de son arrêt de mort, comme les groupes punk qui arrivent à faire qu'un groupe, un 10, 2, 10, puis après ils arrêtent. Pas du tout. 4 450 000 vues. Pourquoi vous êtes lancé là-dedans ?
Il y a 10 ans ? Pourquoi je me suis lancé là-dedans ?
Non, dans raconter de la vieillesse.
Mais parce que je parle de sujets du quotidien, des choses qui me touchent, qui m'arrivent. Du coup, j'étais obligée de ça parce que je constate que je commence à vieillir, tout simplement. Donc, c'était un sujet à aborder.
J'ai appris plein de trucs sur vous. J'ai appris que désormais, vous faites des brocantes, que vous êtes mise à jouer au Scrabble en ligne. Et surtout, j'ai adoré, elle dit, je me suis surprise à marcher les mains dans le dos.
Ouais, mais je voyais ma mère le faire, je me disais... Ah, c'est vraiment un truc de vieux, jusqu'à ce que je me rende compte que moi aussi je le faisais. Donc bon.
Mon grand-père provençal, quand il voyait quelqu'un qui marchait les mains dans le dos, il disait « Tais, lui il a marié ses filles ». Ludovic, quand on regarde vos vidéos, même si vous jouez un personnage, vous êtes totalement odieux.
Oui. C'est pas un personnage.
Voilà, merci.
Ça allait être ma question. Est-ce que vous êtes assagi pour le tournage de True Story ? Est-ce que c'est un personnage ? Comment ? Parce que c'est de la fiction. Vous n'êtes pas un youtubeur tout seul dans sa chambre. La caricature du youtubeur, c'est le gars qui est filmé au fisheye et qui raconte sa vie.
Bah, de toute façon, maintenant sur YouTube, il y a de tout. Donc oui, moi je suis plus habitué à faire de la fiction. Et oui, bien sûr que je me suis assagi dans True Story parce que je suis juste comédien dessus. Et il m'arrive d'être juste comédien sur des projets au cinéma. Etc, etc, quoi.
Vous lui avez demandé, Thomas Dubois, de s'assagir ?
Nous, on leur a rien demandé. On leur a demandé d'être eux-mêmes, d'être authentiques. C'est ce qui est toujours important pour nous.
Bon, bah, j'étais odieux, alors voilà.
Ouais, c'est un format australien, True Story. Et c'est vous qui l'avez adapté ?
Enfin, on a décidé, oui, on a vu ce format en Australie. On trouvait ça vraiment original. Et du coup, on l'a adapté.
Oui, mais vous l'avez pimpé, comme on dit, puisque l'idée des youtubeurs...
C'est le travail d'Amazon, ouais.
Ouais, racontez.
En gros, le format australien, déjà, ce sont des anecdotes de personnes anonymes et qui sont accueillies par deux célébrités locales. Là, nous, on avait envie de donner une autre dimension en ayant un groupe de youtubeurs, une équipe avec nos six youtubeurs, et en donnant la parole à des célébrités pour raconter des anecdotes que... les gens ne connaissent absolument pas.
Est-ce que dans le format australien, ce sont déjà des youtubeurs ou est-ce que ce sont des animateurs télé classiques ?
Ce sont des animateurs télé classiques.
Donc il y a deux nouveautés par rapport au format ?
Bien sûr, enfin il y en a plus que deux parce que toute la partie plateau a été retravaillée de façon à ce qu'elle soit encore plus ambitieuse. Sur la partie fiction, elle est encore plus fournie que celle du format initial. Donc tout le travail qu'on fait quand on part d'un format existant dans un autre pays, on essaie de l'upgrader au maximum.
Et ils sont plus chers que des vrais animateurs ou pas ?
Moi, je parle pas d'argent.
Vous savez. Ça, je sais. On sait qu'Amazon ne parle pas d'argent. J'ai lu ça dans l'Huma. Je retiens justement qu'on évacue la question qui irrite par-dessus tous les youtubeurs. C'est l'argent, les gens
le salaire.
Oui, les fantasmes là-dessus. Je sais que Cyprien avait été furieux d'une interview chez Ardisson qui avait quasiment parlé que de ça. Alors, je vais le dire rapidement. Sur YouTube, on touche en gros 1 euro toutes les 1000 vues. Donc, si vous faites 1 million de vues, ça fait en vidéo, ça fait 1000 euros. C'est ce qu'on touche, juste pour situer, en vendant 500 livres. puisqu'on touche 2 euros par livre. Donc, et on ne pose jamais la question aux gens qui écrivent des livres, on pose toujours la question aux youtubeurs. Mais ma question est celle-ci, pourquoi ça vous agace à ce point quand on vous parle d'argent ?
C'est une question maintenant qu'on nous pose depuis 10 ans, quoi. C'est vrai que ça commence à dater, qu'on nous repose tout le temps la même question, que les gens soient intéressés par ça. Et c'est vrai, pourquoi on nous demande ça à nous et pas à d'autres artistes ?
2 euros les 500 bouquins ?
Comment ? 2 euros par livre.
Par livre, ok.
Donc 500 bouquins, 1000 euros.
1000 euros, oui, d'accord.
Voilà.
Non, je fais un petit calcul comme ça.
Oh, vous calculez vite, vous, disons, vous étiez fort.
Oui.
Hein, tu veux écrire un livre, Ludo ?
Oui, je trouve ça intéressant.
Non, c'est vrai. Je ne sais pas si vous avez vu cet article du Financial Times le mois dernier qui disait que la crise du Covid avait fortement impacté une population à laquelle on n'avait pas pensé, qui étaient les influenceurs, parce que les marques n'avaient plus de campagne à proposer. Est-ce que vous-même, vous avez senti passer le Covid ? Qu'est-ce que vous avez fait pendant le confinement ?
Des TikTok.
On a découvert TikTok comme des boomers avec 4 ans de retard. Non, moi j'ai continué à faire comme d'habitude. En fait, moi je vois toujours mes vidéos et ma chaîne comme un loisir, donc j'ai continué à faire des vidéos comme d'habitude.
Et vous, Ludovic ?
Moi, c'est une petite parenthèse parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, je fais pas mal de fiction qui nécessite des tournages, etc. Avec plus de personnes et tout ça. Donc, c'était une petite parenthèse dans ma vie où j'en ai profité pour écrire.
Et pendant le écrire quoi ?
Des projets, voilà.
Pendant le
des bouquins pour
moi aussi,
deux
moi aussi. Ah, oui. J'écris mon deuxième livre.
Eh ben voilà, ça va parler de quoi, quoi.
Ben, j'avais sorti un livre qui s'appelle Icône il y a 5 ans et c'était une parodie d'un magazine féminin.
Il s'appelle Icône avec 2 N.
Oui,
Icône.
Tout à fait. Oui.
Hein
Icône.
Voilà. Non, il faut dire le titre en entier.
Oui.
Parce que sinon.
Mais parce
Icône,
que comme on est sur Europe 1 et tout, je voulais être poli.
Ben non, mais c'est poli. Ben oui. Ça fait partie du vocabulaire. Pendant le confinement, vous avez également participé au marathon.
Oui.
Expliquez ce que c'est le marathon.
C'était un grand live organisé par Carlito et McFly.
Ouais. C'est comme un marathon, mais on fait des dons.
C'est ça.
Vous savez combien ça a rapporté ? Parce que moi, je le sais.
C'était 400 000.
400 000 euros pour les hôpitaux et pour l'EHPAD. Et vous avez même été félicité par le président Macron, donc on ne s'attendait pas et on n'attendait pas les youtubeurs sur ce terrain. Vous avez dit oui tout de suite, bien sûr.
Évidemment, en plus, c'est des potes. Donc.
Thomas Dubois, comment vous avez vécu ? Je sais qu'il n'y a pas de chiffres. Je sais qu'il a bien compris ça. Mais est-ce que, comme vos confrères et vos concurrents, pendant le Covid, vous avez vu une vague d'abonnements ?
On a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient en demande de contenu.
Ouais.
Ce qui nous a poussé à nous dire qu'il fallait qu'on en fasse encore plus.
D'accord, on ne saura pas. on n'en saura rien. C'est quoi l'avenir des youtubeurs, selon vous ?
Moi, je n'ai pas envie de les définir que comme des youtubeurs, une fois de plus. Parce que pour moi, ce sont... ils sont aussi comédiens, ils écrivent, ils ont plein de talents. Donc je pense qu'ils ont un avenir soit dans la comédie, soit dans l'écriture, soit dans d'autres projets qui les animeront. Mais ils se définissent pas à juste le fait de s'enregistrer et de mettre une vidéo sur YouTube. Ils ont d'autres talents, donc ce sera au gré de leurs envies. Et je trouve que True Story est un bon pas en avant où on les découvre à la fois comédiens, à la fois intervieweurs, et ils ont relevé le défi avec brio.
Il y aura une saison 2 ?
J'espère.
Vous attendez ce soir de voir les chiffres ?
Nous, les chiffres, c'est pas en une fois, ça prend du temps. On va voir.
D'accord.
On va voir comment les gens réagissent au projet.
D'accord. Ben, je peux vous dire, moi, j'ai l'impression qu'il y aura une saison 2. Juste à voir comme ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci.
Natou, Ludovic, Thomas Dubois. Je rappelle, True Story, c'est sur Amazon Prime et c'est depuis ce matin. Il suffit d'y aller. Culture Média continue évidemment. Dans quelques instants, le flash de Marguerite Lefebvre, puis le journal de la culture. Notre invité, Michel Bougenat, président du festival de Ramatuelle. Cet été, il va fêter ses 35 ans d'existence. Avec quelle programmation ? Ce sera du très lourd, il va nous dévoiler ça. Il y aura son portrait inattendu par Hélène Manarino. Puis dans les indispensables, un polar avec la faconde inimitable de l'ami Bernard Poirette. Et puis des comics qui rajeunissent les super-héros. Vous allez voir Catwoman et Bruce Wayne quand ils étaient en 4e B. Ce sera avec notre éternel ado, Clément Le Saffre, juste après le flash de 10h.